Bien, alors, vous voyez, je vais peut-être commencer par les problèmes d'interprétation, parce qu'ils sont nombreux. En fait, c'est une synthèse numérique, ceci. Ce sont des sons entièrement de synthèse, je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est ce que j'appelle le partenaire invisible et inflexible. C'est-à-dire que c'est extrêmement, ça pose énormément de problèmes aux interprètes, parce qu'on n'est absolument pas libre. Là, ici, chez Marsh, les tempis sont indiqués très clairement, etc. Mais il y a quand même une certaine liberté dans l'interprétation, certaine analogie, qui fait partie du travail de l'interprète. Or, là, quand on doit être ensemble, vraiment, avec la bande, c'est extrêmement difficile, on ne peut rien se permettre. Et tout de suite, c'est le petit accro, on est un peu avant, on est un peu après. Ça pose énormément de problèmes. C'est à la fois très agréable parce que ça enrichit le son du piano, c'est le but de l'opération, mais en même temps, pour l'interprète, ça représente une énorme contrainte. Voilà, ce n'est pas négatif ce que je dis, je pose simplement les problèmes. Donc, la partition du MASH, vous avez en exemple, j'ai chaque fois pris le premier système, j'aime toujours bien de montrer comment commence l'œuvre. Donc, vous voyez, elle commence par une section pour piano seul. Les deux mains sont superposées. Je vous disais, c'est des canons. Et pourtant, c'est un canon, mais il commence en même temps. Avec une grande spécialité de Marsh, c'est-à-dire les tempi superposés aux deux mains. Il aime beaucoup ça. Et comme le canon, vous le voyez sur le plan rythmique, vous voyez qu'il s'agit des mêmes valeurs. Par contre, les intervalles ne sont pas identiques. Donc c'est un canon rythmique, mais sur le plan mélodique, il y a des libertés. Il m'a dit d'ailleurs, je l'ai vu avant-hier par hasard, il m'a dit, n'oubliez pas de bien rappeler, c'est un canon élargi. Donc les intervalles, d'abord, ne sont pas identiques chaque fois, et à chaque retour du canon, et ils vont s'élargir dans le courant de la partition. Donc au début, ici, on a une quinte, et puis une tierce, une seconde. Tandis qu'à la main gauche, on a la tierce majeure, la seconde majeure, et la seconde mineure. Je pense que c'est assez évident. Et le canon va se marquer au moment de l'incise que vous voyez ici, aux deux tiers du système. L'incise qui fait à la main droite et la main droite arrive avant, puisqu'elle est à 52 à la noire, tandis que la main gauche, évidemment, est en 50, à ce moment-là, ralentit. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de barre de mesure. Donc, il s'agit d'une notation spatiale et proportionnelle parce que chaque système représente 20 secondes jusqu'à la page 5. Donc, ce qui n'est absolument pas le pianiste d'ailleurs, ça n'a vraiment aucun rapport pour l'interprétation ça, et pour la mise en place. Mais enfin, c'est comme ça, chaque système a une durée de 20 secondes. Donc, ça lui permet d'avoir une notation spatiale. Alors, Marsh, comme beaucoup de compositeurs, et nous verrons tout à l'heure chez Nono aussi, aime beaucoup le registre grave. Et il commence dans le grave du piano. Donc ici, il n'y a pas de bande au départ. La bande intervient dans la deuxième section, je vous l'ai dit, où c'est une sorte de petit choral avec le motif de son canon, à l'unisson entre le piano et la bande. Pour autant que faire se peut, il sait très bien qu'il y a des petits décalages qui donnent une coloration à la sonorité. Dans la troisième section que vous n'avez pas, les intervalles s'élargissent encore. Septième ici, et puis quarte, etc. Et là, le piano est à l'unisson avec la bande pour les deux voix supérieures. Et pour la voix inférieure, il joue seul. D'accord ? Et les intervalles vont s'étirer de cette façon. Dans l'exemple numéro 2, page 5 pour ceux qui ont la partition, vous voyez que le système de notation est différent. L'exemple numéro 2 représente un seul système, superposés. Donc vous avez quatre portées pour les bandes, les deux voies de bande, et puis les deux portées inférieures sont pour le piano. Et si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il s'agit au piano des mêmes sons que ceux de la bande. C'est-à-dire que le piano reprend à lui seul les deux parties jouées par la bande. Par contre, vous voyez qu'au piano, il n'y a pas de valeur inscrite. Et les barres verticales sont en fait de ma main parce que je les ai tracées tout simplement pour essayer de m'y retrouver un peu plus facilement. Il s'agit d'une notation spatiale seule. C'est-à-dire que les durées ne sont pas indiquées parce qu'il était très difficile de retranscrire ces rythmes serrés. Il s'agit ici d'une variation sur le canon, donc des intervalles, des rythmes plus serrés, des valeurs plus brèves. Il était très difficile de retranscrire. Donc c'est intéressant, cette notation, évidemment, d'autres compositeurs l'ont utilisée aussi. Hein? Si vous voulez, je vais vous rejouer ce passage que vous avez sur l'exemple. Je vais le raccrocher. Donc vous pouvez me passer 3 minutes 50, s'il vous plaît. Très serré et l'ensemble était réalisé de cette façon. Ce qui aide aussi à ce moment-là, c'est que la synthèse numérique commence à émettre certains petits bruits, un peu comme Glockenspiel ou clochette, et à ce moment-là, on parvient à mieux trouver son texte, parce qu'il est très difficile d'avoir à la fois l'audition de la bande et de jouer en même temps. L'exemple suivant est à la page 7. De même ici, vous apercevez que, vous apercevez pas, je vous le dis, c'est un seul système. Si vous partez de haut en bas, vous voyez qu'il y a une espèce de ligne frisée là au-dessus, qui est une sorte de bourdonnement tout au-dessus. C'est écrit en clé de fa, mais c'est... voilà. C'est donc la bande est tellement rapide à ce moment-là, l'enregistrement est tellement rapide, il a tellement accéléré les tempi, que rien n'est plus perceptible. Donc jusqu'à la fin de l'œuvre, vous avez remarqué, il y aura un bourdonnement, une espèce de bourdonnement. En fait, c'est la mélodie du canon qui va en s'accélérant et qui finit par ne plus être perceptible. En dessous de cette ligne, vous avez l'autre partie de bande qui est donc notée, ça se voit moins bien parce que c'est petit, mais il y a déjà des petites croix parce qu'on ne peut plus percevoir les sons, plus très nettement. Et là, heureusement, comme c'est très rapide, le piano, lui, que vous voyez sur la portée intermédiaire, en deux clés de sol, joue autre chose. Donc là, on joue un canon à deux voix et la bande joue tout à fait autre chose. Là, en fait, c'est écrit, je dirais, un petit peu pour mémoire, parce que là, il sait très bien qu'on ne peut plus du tout être ensemble avec la bande. Alors, la partie... dans l'ultra grave, vous voyez la partie en clé de fa au piano, en dessous. Là, vous voyez deux notes superposées. Pourquoi ? Parce que, en fait, Mach a utilisé pour cette pièce le piano Bösendorfer impérial qui descend jusqu'au ré bémol une octave plus bas. Donc ici, jusqu'au ré bémol que vous connaissez, certains d'entre vous connaissent peut-être. Il y a ici une espèce de petite plaquette qu'on soulève. Toutes les touches sont noires. Et on peut jouer jusqu'au ré bémol. Et sa partition commence au ré bémol ultra grave pour la main gauche. Alors, comme il sait qu'on ne dispose pas toujours de ce type de piano, il l'a aussi réécrite. Mais au lieu de la réécrire une octave plus haut, il l'a écrite à la sixte mineure. Donc, vous voyez le ré bémol, quinte augmentée si vous voulez. Ré bémol là. Donc, le ré bémol qui est là, je ne peux pas jouer. Et le piano commence là. Et puis le sol en parenthèse à la place du si, là, qui se trouve ici, etc. Donc je joue cette partition pour un piano à queue normale. Alors pourquoi vous ai-je donné un exemple de la fugue? Et c'est parce que je veux vous faire remarquer que les compositeurs utilisent souvent, malgré le changement total de langage au XXe siècle, des procédés du passé. Il ne faut pas croire que, enfin je suppose que vous le savez, que l'écriture, le changement, l'abandon de la tonalité vont modifier tous les procédés, ils vont modifier beaucoup de procédés, mais je veux dire que les compositeurs se raccrochent encore parfois à certains procédés du passé. Et moi j'ai trouvé qu'ici l'exemple était très bien choisi avec cet art de la fugue, puisque vous voyez qu'il s'agit d'une fugue à quatre voix par augmentation et diminution. Donc vous avez, et puis en dessous, en mouvement contraire. Donc il y a des mouvements contraires, il y a des rythmes augmentés, diminués, et puis vous voyez tout en bas, en bas de l'exemple, la basse de Bach qui rentre en remonte. Donc il s'agit exactement du même procédé qu'a utilisé Mach.